des températures qui ce matin vont de 3 degrés à Aurillac jusqu'à 13 degrés sur la Corse. Dans l'après-midi, eh bien, pour tout le monde, ça sera à peu près régulier. Certes, il pourra faire jusqu'à 20 degrés vers la Méditerranée sous le soleil, mais ailleurs, on se contentera de 11 à 16 degrés.
Merci beaucoup, Rémi. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio, il est 5h.
Parlons vrai.
Et on retrouve Laurie Leclerc pour le premier journal de ce vendredi matin. Bonjour Laurie.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Une adolescente agressée au couteau dans son lycée de Toulouse par un jeune homme de 19 ans. Les élèves sont sous le choc, nous étions sur place.
Premier débat des européennes entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. Retour sur ce face-à-face des candidats du Rassemblement National et de la majorité.
Sciences Po Paris restera fermée aujourd'hui. Après le débat avec les directions, les militants pro-palestiniens décident d'occuper à nouveau les locaux.
L'Olympique de Marseille a encore toutes ses chances en Ligue Europa. Match nul hier à domicile contre l'Atalanta Bergame, match marqué par des insultes racistes et des saluts nazis.
On a frôlé le drame. Hier après-midi, dans un lycée de Toulouse, une élève a été poignardée par un autre élève.
Cet élève de 19 ans en terminale a été interpellé et placé en garde à vue. L'origine de l'agression est, selon les premiers éléments de l'enquête, un différend amoureux. La jeune fille de 16 ans souffre de blessures superficielles. Christine Bouillot, grâce à la réaction d'un autre élève.
Si l'adolescente de 16 ans, élève de seconde dans ce lycée, ne souffre que de plaies superficielles au niveau du bras, elle le doit en effet à la réaction d'un de ses camarades, comme le raconte un témoin de la scène.
En gros, il a gardé son sang-froid. Et il a pris par le cou et il l'a mis par terre et après il lui a mis des tartes. Et après il l'a maîtrisé et la police est venue et voilà.
Les faits se sont déroulés dans le gymnase du lycée. Rapidement maîtrisé et interpellé par la police, l'agresseur, un élève de terminale âgé de 18 ans qui jusqu'ici n'avait fait parler de lui que pour ses absences répétées, a fini par expliquer son geste. Il se disait amoureux de cette jeune fille, Mostafa Fourard, le recteur de l'Académie de Toulouse, qui s'est rendu sur les lieux hier, en fin de journée.
Il prétend être amoureux et il n'a pas montré de la résistance quand il a été arrêté. Il a attendu la police qui vient le chercher. Et il a même dit à la CPE, il faut appeler la police. Donc c'est dire que manifestement, il était conscient de ce qu'il a fait et de la gravité de la situation.
Évidemment, l'émotion est forte dans ce lycée professionnel où toute la communauté éducative tente de changer l'image de cet établissement situé dans le quartier des Isards. Une cellule psychologique sera mise en place dès aujourd'hui.
Un reportage de Christine Bouillot.
Un touriste étranger agressé et poignardé là aussi, par 4 individus à Nice sur la promenade des Anglais.
Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. L'homme d'origine libyenne venu d'Angleterre a été frappé alors qu'il était assis sur un banc. L'un de ses agresseurs a ensuite sorti un couteau, l'a touché à la cuisse avant de prendre la fuite. Les jours de la victime ne sont pas en danger, mais les agresseurs sont toujours recherchés.
Plus de 2 heures de face-à-face hier soir dans une ambiance plutôt tendue entre les têtes de liste du Rassemblement National et de Renaissance.
Débat sur BFM TV pour dévoiler les principaux éléments de leur programme pour les européennes, alors que Jordan Bardella est en tête de notre sondage quotidien à 31% d'intention de vote contre 16,5% pour Valérie Ayé. Peu après le début de l'échange, la candidate de la majorité met sur la table la question de l'antisémitisme.
Monsieur Bardella, vous avez participé à la manifestation le 29 octobre contre l'antisémitisme.
Tout à fait.
Très bien. Après un long moment d'ambiguïté, vous avez reconnu que les propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, détails de l'histoire, était de nature antisémite. Je pense que c'est l'occasion pour vous, sur ce plateau, peut-être de clarifier un certain nombre de vos positions, de dire clairement à tous les Français, et notamment aux Français de confession juive, une chose simple. Oui, Jean-Marie Le Pen a été le déshonneur de ma formation politique pendant 50 ans.
Et la réponse s'en est suivie de Jordan Bardella.
Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Les propos de Jean-Marie Le Pen étaient des propos éminemment antisémites. Mais si, encore une fois, 10 ans après, vous en êtes à appeler Jean-Marie Le Pen au secours, c'est que sans doute vous n'avez pas grand-chose à dire sur ce qui intéresse nos concitoyens.
Et parmi les autres sujets abordés, Jordan Bardella au cours du débat s'est dit favorable à la taxation des super profits pour les industriels de l'alimentaire ou des énergéticiens. Réponse de Valérie Ayé, c'est merveilleux, on l'a fait. Les deux candidats qui sont opposés sur un élargissement de l'Union européenne, Jordan Bardella totalement contre, alors que Valérie Ayé soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Jordan Bardella également qui appelle à une libre circulation dans l'espace Schengen réservée aux seuls ressortissants de l'Union européenne.
Et dans ce contexte, les oppositions gagnent cause le discours sur l'Europe d'Emmanuel d'Emmanuel Macron est bien un discours de campagne.
Un discours tenu à la Sorbonne le 25 avril. Son discours sur l'Europe sera entièrement décompté du temps de parole de la candidate de la majorité, soit 1h48. Emmanuel Macron également, hier, qui s'est exprimé sur l'Ukraine et la Russie, sur la guerre, et qui a mis en garde à nouveau la Russie sur un possible envoi de troupes au sol. Dans une interview au journal The Economist, le chef de l'État explique qu'on devrait légitimement se poser cette question en cas de percée de la ligne de front par les Russes et s'il y avait une demande de l'Ukraine.
Un choc d'offres pour mieux loger les Français. Le projet de loi controversé sur le logement présenté en Conseil des ministres.
Parmi les mesures voulues par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, la possibilité pour les villes d'inclure jusqu'à 25% de logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux. Les surloyers s'appliqueront dès le premier euro de dépassement. Également des plafonds de revenus qui seront abaissés. En cas de déplacement de ce plafond de 20% deux ans de suite, le bail social sera automatiquement résilié. Les maires, par ailleurs, auront plus de liberté dans l'attribution des logements sociaux et les permis de construire seront obtenus plus rapidement.
La protestation des étudiants pro-palestiniens continue à Sciences Po. Les locaux parisiens resteront fermés aujourd'hui.
Après le débat hier entre direction et étudiants pro-palestiniens, jugé décevant mais sans surprise par le comité Palestine de Sciences Po, une nouvelle occupation des locaux a été décidée par quelques dizaines d'élèves du côté de la direction. Et bien, débrief de ce débat avec Jean Bassière, le directeur de l'université.
On a abordé les différents sujets qu'il nous fallait débattre ensemble. Quel doit être le rôle de Sciences Po dans une prise de position politique vis-à-vis des conflits? Comment mieux faire vivre le débat au sein de Sciences Po? Comment affirmer une lutte très ferme vis-à-vis du racisme et dans l'antisémitisme? Et puis aussi des questions naturellement sur le fait que la police était intervenue pour la première fois de l'histoire de Sciences Po. Ça a été un débat dur avec des prises de position assez claires. Beaucoup d'émotions. J'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme, qu'on soit tous toujours dans le dialogue.
Et à mise à part Sciences Po, un autre rassemblement hier d'environ 300 personnes a eu lieu devant la Sorbonne. À Sciences Po, à Lyon, cette fois une centaine d'étudiants occupés hier l'amphithéâtre, menacés par la direction d'être expulsés par les forces de l'ordre. Du côté de Lille, c'est l'accès à l'Institut d'études politiques et à l'École supérieure de journalisme qui ont été bloqués hier.
Et à Gaza, la trêve se fait encore attendre alors que près des trois quarts des bâtiments sont détruits.
Des destructions sans précédent à Gaza, selon l'ONU, qui estime la reconstruction entre 30 et 40 milliards de dollars. 72% des bâtiments du territoire palestinien ont été entièrement ou partiellement détruits. Le Hamas palestinien qui doit par ailleurs toujours répondre sur la proposition de trêve de 40 jours en échange de la libération d'otages.
Aller-retour en France avec cette question, y aura-t-il des tas de poubelles dans les rues de Paris pour les Jeux Olympiques?
Avec cette menace de grève des éboueurs parisiens qui réclament une prime exceptionnelle de 1900 euros pour les agents sollicités lors des JO cet été. Également une augmentation pérenne des salaires. Jules Boscherini, alors est-ce que les Parisiens craignent de revoir des montagnes d'ordures sur leur trottoir?
C'est une situation très redoutée pour ces Parisiens, mais pourtant, ils ont du mal à accorder leur violon.
Ils font comme les autres, ils en profitent. Il y a déjà tellement de gens qui en ont eu, donc ils doivent se dire, pourquoi pas nous?
On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas mettre non plus les Parisiens en otage.
Les Parisiens ne sont pas vraiment pour les Jeux Olympiques, donc je trouve ça complètement correct et normal qu'ils soient plus payés parce qu'il y aura plus de travail.
Côté hygiène, là aussi, la grève pose problème. Ludovic vit en plein cœur de la capitale et pour lui, il est inenvisageable de revivre la même situation que l'an passé.
On va vraiment passer pour des branquignoles. Bon, je vais pas revenir sur les rats, la Seine qui est dégueulasse. Effectivement, en plein mois de juillet, août, ça va être un cauchemar.
Et pour éviter le cauchemar, certains Parisiens s'adaptent. C'est le cas de Dorothée qui a opté pour une solution un peu drastique.
Je vais me casser de Paris pour les Jeux Olympiques parce que comme ils ont volé le Champ de Mars pour leurs épreuves, je ne peux plus promener mon chien qui a besoin de courir quelque part. Donc ça va être intenable.
Mais pour Guillaume qui habite dans le 19e arrondissement, il en va aussi de la responsabilité de la mairie.
Un homme ou une femme politique en responsabilité se doit justement d'anticiper. Ils ont toutes les données et il ne faut pas soit les prendre en otage ou attendre que ça dégénère. Et il faut tout prendre en compte.
Pour tenter de trouver une solution, la mairie de Paris a indiqué que la CGT sera reçue la semaine prochaine par Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire Anne Hidalgo.
Et mis à part cette grève des éboueurs, pour rappel, il y a également un préavis de grève à la SNCF en Ile-de-France qui réclame les employés de meilleures conditions de travail pendant les JO. Grève annoncée pour le 21 mai prochain.
Et je le rappelle, les JO, c'est dans moins de 3 mois déjà. 5h09 sur Sud Radio. On termine avec le football. Rien n'est perdu pour l'OM en Europa League.
Exactement, avec le match nul. 1 partout à domicile pour l'OM face à l'Atalanta Bergame pour cette demi-finale allée de Ligue Europa. Un avant-match qui a été marqué par des insultes racistes gestes et des saluts nazis dans les tribunes des supporters italiens. C'est le procureur de la République qui a été saisi du côté du match du terrain. Eh bien, il y a quelques regrets, notamment pour l'attaquant de l'OM, Amin Harit.
On avait un plan tactiquement, on savait comment aller les chercher, aller les presser. Voilà. Et surtout que c'est un système dans lequel on a joué la saison dernière. C'est un peu similaire à ce qu'on faisait. Donc on savait ce qu'il fallait faire pour les mettre en difficulté. Je pense qu'on aurait dû faire un peu plus garder le ballon. À un moment, on est tombé un peu dans ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire les jeux longs. Voilà, on sait qu'ils aiment le duel. Mais malgré tout, je pense que ce soir, on a fait une très très belle rencontre.
Amin Harit, l'attaquant de l'OM au micro de Canal+. Dans l'autre demi-finale hier soir, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Rome 2-0. Les matchs retour auront lieu jeudi prochain.
Ah, les Marseillais peuvent s'en vouloir. Ils ont fait un sacré match face aux Italiens. Ils ont même touché la barre transversale à un moment donné. Ça risque d'être compliqué au retour, mais on croise le doigt.
On leur souhaite.
Vous êtes optimiste,
Laurie? Bah pourquoi pas, ce serait bien.
Bah on verra ça jeudi prochain, donc 21h. Merci beaucoup, Laurie Leclerc.
À tout à l'heure.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
5h10 sur Sud Radio, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le Petit Matin entre 5h et 6h30 avec vos rendez-vous, au moins pour cette prochaine heure, entre 5h et 6h avec le meilleur de vos émissions sur Sud Radio, avec les médias tout à l'heure, avec l'invité politique d'hier. Franck Riester, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. On retrouvera notre lève-tôt tout à l'heure à 6h-10. Mais tout de suite, les trois mots dans l'actualité de Félix Mathieu.
Trois mots dans l'actu, Félix, qui sont troupes, dysfonctionnement et audition.
Emmanuel Macron le réaffirme, un envoi de troupes en Ukraine ne serait pas à exclure si la Russie perçait des lignes de front et que les Ukrainiens le réclamaient. L'accord à la SNCF pour atténuer la réforme des retraites, un dysfonctionnement selon le ministre de l'économie. Bruno Le Maire convoque le PDG de la compagnie pour qu'il rende des comptes. Et puis Carla Bruni-Sarkozy est auditionnée. Les enquêteurs se demandent si elle est impliquée dans la rétractation de Ziad Takieddine, le retrait de ses accusations sur le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.
Les vraies voix Sud Radio.
Envoyer des troupes au sol en Ukraine, il faudrait se poser la question. Donc, affirme Emmanuel Macron, si les Russes perçaient des lignes de front et que les Ukrainiens le demandaient. Dans l'hebdomadaire britannique The Economist, le président de la République assume de nouveau la posture qu'il a défendue à plusieurs reprises ces derniers mois, l'ambiguïté stratégique qu'il développait par exemple encore récemment lors de son discours sur l'Europe à la Sorbonne.
Face à une puissance qui est désinhibée, pourquoi chaque matin devrions-nous dire, nous, quelles sont toutes nos limites stratégiquement? Si nous disons que l'Ukraine est la condition de notre sécurité, que se joue en Ukraine davantage que la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, déjà clé, mais la sécurité des Européens, avons-nous des limites?
Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui les représentants des organisations agricoles aussi pour clore le chapitre de la crise et concrétiser les annonces du gouvernement. On va faire le bilan de cette rencontre à partir de 18h30. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix des organisations agricoles au chevet d'ailleurs aussi aujourd'hui des vignobles de Chablis très endommagés par les grêles de la nuit dernière dans l'Yonne. Les orages ont provoqué la mort d'une femme de 57 ans aussi dans l'Aisne. Elle a été victime d'une coulée de boue sur sa maison à Courmel.
Philippe Bilger, il faudrait se poser la question si les Russes perçaient les lignes de front avec les Ukrainiens. Le demandait. Là, les Ukrainiens, leurs lignes ont été percées par les Russes. S'ils demandent, donc on y va.
Au fond, ils continuent avec un entêtement qui est sa marque de fabrique à considérer que la France devra, en dernière extrémité, aller là-bas. Et je me demande s'il n'y a pas un propos là infiniment réaliste tout de même. Parce que si l'Ukraine dépasse de très loin le destin de l'Ukraine, il y a bien un moment peut-être où nous devrons tirer les conséquences. Je n'étant pas un géopoliticien de haute volée, je formule cette interrogation.
Moi, je pense qu'il a raison.
Les amis, on n'a pas le temps.
Ah, c'est dommage.
On n'a pas le temps. Non, très en retard déjà. Deuxième mot, dysfonctionnement, terme employé par Bruno Le Maire à propos de l'accord sur la fin de carrière de la SNCF.
Accord qui atténue très fortement les effets de cette réforme des retraites pour les cheminots en leur permettant de partir 18 mois avant l'âge légal de la retraite. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, voit rouge. Il annonce même d'ailleurs avoir convoqué le PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou.
Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF de gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de deux poids, deux mesures.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, chez nos confrères de BFM TV.
On passe au rolling Guy Fiduciel pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. La liste de Valérie Ayé creuse de nouveau l'écart avec la liste Glucksmann.
Il y a 3 points désormais entre Renaissance à 16,5 et le PS à 13,5. Le RN de Jordan Bardella perd un demi-point mais reste très largement premier à 31%. Ensuite, on trouve ex-aequo LR et LFI à 7,5 devant les écologistes à 7%, puis Reconquête toujours à 6,5. Toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr où le rolling est mis à jour quotidiennement à 17h.
Et le troisième mot, audition. Carla Bruni, Sarkozy a été entendu durant plusieurs heures aujourd'hui dans l'enquête sur la campagne de 2017.
Quasiment 3 heures. Hein. Entendu cette fois comme suspecte dans l'enquête sur la rétractation de Ziad Takieddine en 2020. Les enquêteurs cherchent à savoir si l'épouse de l'ancien président a convaincu Takieddine de retirer ses accusations quant au financement libyen de cette présidentielle de 2007.
4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de...
Aucune décision n'a été prise par les magistrats instructeurs à l'issue de cette audition libre. C'était à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Merci beaucoup.
On a quand même le droit de
Félix
dire que
Mathieu...
Carla Bruni, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quand même une magnifique chanson qui restera dans le répertoire français.
Ah ben voilà pour la vie de Françoise Degout. Les vraies voix que vous retrouvez ce soir à partir de 17h. On les retrouvera d'ailleurs dans une demi-heure. Nos vraies voix, on va parler de Macron et des agriculteurs. 5h16 sur Sud Radio dans un instant, le rappel des titres. Et puis on trouvera les médias, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann. A tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio Figeac.
103.8.
Sud Radio. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Troulot.
5h16 sur Sud Radio, le rappel des titres. Emmanuel Macron met à nouveau en garde la Russie sur un possible envoi de troupes au sol en Ukraine. La question se pose, selon le chef de l'État, en cas de percée de la ligne de front par les Russes et s'il y a une demande de l'Ukraine. À Toulouse, une adolescente de 16 ans agressée au couteau dans le gymnase de son lycée par un homme de 19 ans. La jeune fille a été blessée superficiellement au bras. Placée en garde à vue, il souffrirait de graves troubles psychiatriques et aurait agi par dépit amoureux. Le projet de loi sur le logement présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, parmi les mesures, 25% de logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux, des permis de construire plus faciles à obtenir. À Sciences Po Paris, l'université restera fermée aujourd'hui après le débat hier entre direction et étudiants. Une nouvelle occupation des locaux a lieu. 6 étudiants ont entamé une grève de la faim. À Gaza vit des destructions sans précédent. Selon l'ONU, 72% des bâtiments touchés ou totalement détruits. Le coût de la reconstruction est estimé entre 30 et 40 milliards de dollars. Et puis le football. Match nul un partout à domicile entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame en demi-finale allée de Ligue Europa. Match retour jeudi prochain, rien n'est fait. 5h17 sur Sud Radio donc, le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann. On parle de harcèlement scolaire.
Sud Radio Média. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Louis Morin. Louis Morin, connu des auditeurs historiques de Sud Radio, parce que vous êtes passé par Sud Radio. Vous êtes aujourd'hui réalisateur, producteur. Vous avez réalisé ce documentaire Harcèlement scolaire, la fin du silence, qui va passer dimanche soir sur C8 à 23h15. Nouvelle dynamique, en tout cas sur C8. Ce que vous disiez, la volonté de s'emparer des sujets de société et d'ouvrir une case documentaire. Première cause, le harcèlement scolaire. On voit que le gouvernement aussi a décidé de s'en emparer. Les chiffres sont assez terrifiants. Hein. C'est quoi 5% en primaire, 6% au collège et 4% des lycéens. C'est beaucoup.
On estime qu'un élève sur 10 connaît le harcèlement. Et selon un sondage IFOP, qui est paru en novembre dernier, 1 sur 5, selon ce dernier sondage, c'est colossal. C'est 1 million d'élèves, jusqu'à 1 million d'élèves harcelés chaque année, avec des conséquences parfois terrible, on le voit évidemment dans le documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur C8, avec des conséquences qui continuent à l'âge de la vie adulte.
Il y a une jeune femme qui témoigne et qui explique que ça l'a marqué à vie. Et on a eu, nous, Jordan Deluxe, dans un autre genre, qui nous a raconté aussi, il en parle aujourd'hui encore avec beaucoup d'émotion, de ce harcèlement subi.
un harcèlement très fort et effectivement qui laisse des traces par la suite dans la vie adulte. Nayadé, puisque voilà, c'est la jeune fille à qui on fait référence, qui a aujourd'hui 30 ans et qui est complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu, mais en réalité c'est le cas de quasiment toutes les victimes de ce type de harcèlement. Lorsque le harcèlement est très violent durant l'enfance, ça a des conséquences à l'âge adulte, que ce soit un manque de confiance en soi, un manque de confiance évidemment dans les autres, parfois des états dépressifs et malheureusement dans les cas les plus graves des suicides.
Et d'ailleurs, elle dit, pour rebondir sur ce que vous dites, Adrie, elle dit la phrase qui est le titre du livre de journal, c'est à quoi tu sers, ce qu'on lui a dit, elle en parle. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez que c'est dans la nature de l'enfant de harceler, ou parce qu'on n'a pas eu d'éducation par rapport à ça, ou parce qu'il y a...
Qui sont les harceleurs, en
qui
gros.
Qui sont les harceleurs. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il y a 1 million de personnes harcelées, ça veut dire qu'il y a 1 million de harceleurs.
Au minimum,
parce qu'ils se mettent à plusieurs, souvent.
Voilà, souvent, c'est effectivement l'effet de masse, hein, c'est l'effet de groupe aussi qui a une incidence. Alors, pour répondre, est-ce dans la nature de l'enfant ou pas, c'est une question quasiment philosophique, hein, de savoir, effectivement, est-ce que l'homme est mauvais en soi, en lui-même ou pas? Bon, là-dessus, je laisserai chacun avoir son avis sur la question, mais en tout cas, il y a évidemment un facteur éducatif. C'est indéniable. Mmh. Et donc, à partir du moment où on prend pas le problème à bras le corps, et évidemment qu'on peut faire quelque chose, c'est pas une fatalité, le harcèlement scolaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire, et l'État a énormément à faire dans l'éducation qu'on transmet aux élèves, dans l'accompagnement, bien évidemment, des élèves harcelés, mais aussi dans les valeurs que l'on transmet aux élèves dès le plus jeune âge, dans les mesures de sanctions. Et effectivement, c'est ce qu'on constate maintenant. Heureusement, depuis quelques mois, on voit que le gouvernement a décidé d'agir et a décidé de mettre fin au déni qui a régné pendant des années.
Parce qu'il y a un déni, on voit une directrice d'école qui est vraiment dans le déni absolu.
C'est une séquence très forte,
très fort.
À laquelle vous faites référence. En effet, Valérie, on a suivi l'action d'un groupe de bikers.
Formidable.
Ce sont des motards, une association de motards. Alors, il y a une trentaine de motards sous l'égide de leur chef de groupe, Scribe, il s'appelle, qui viennent réconforter les élèves harcelés. En l'occurrence, c'est un petit Nathan qui est harcelé à l'école depuis maintenant des années. Et l'établissement ne fait rien. Et donc, les parents désemparés ont fait appel à cette association. Dans un premier temps, l'association va vérifier qu'un certain nombre de démarches ont déjà été initiées pour ne pas intervenir pour rien ou perturber même les établissements scolaires de manière indue. Et par la suite, ils décident d'organiser une action coup de poing symbolique.
Donc, ils arrivent à 30 motos, et qu'est-ce qui se passe alors?
Ils accompagnent l'enfant à l'école, à la sortie de l'école. En fait, ils viennent le chercher. L'objectif est double. En fait, déjà, c'est de montrer aux autres que l'enfant n'est pas seul, mais c'est aussi de redonner confiance à l'enfant.
Voilà,
de lui dire, on est avec toi. Et évidemment, il y a aussi un objectif en termes de communication, puisque lorsqu'on organise ce type d'action, la presse est conviée, les élus locaux sont conviés, et donc l'établissement qui jusque-là fermait les yeux ne peut plus continuer à être dans le déni. C'est très confortable pour un établissement scolaire de dire, non, il se passe rien chez nous, surtout étouffons l'affaire, on met sous le tapis, on n'en parle pas, et puis c'est pas grave, l'enfant continue à subir, mais au moins, nous, on sera pas accusé.
Il y a une auditrice qui nous dit, j'en ai fait les frais aussi dans un lycée de l'Omerta, il fallait que je me taise pour l'image du lycée, sinon n'étant pas fonctionnaire, on m'éjectait. Donc c'est je pense qu'elle devait travailler dans un lycée ou collège, et effectivement les signaux sont là parfois et on ne les voit pas.
Exactement, et on l'a constaté également l'été dernier. On se souvient des lettres parfois menaçantes qui avaient été envoyées par certains rectorats à des parents d'élèves qui se plaignaient du harcèlement scolaire vécu par leur enfant, et des lettres menaçantes des rectorats qui disaient maintenant, il faut arrêter d'en parler, de perturber la vie scolaire. C'était le contenu des lettres des rectorats qui avaient été envoyées. Gabriel Attal s'était saisi de ce sujet et avait dit, maintenant, plus jamais, je ne veux plus, c'est une honte. C'était ses propos, et je ne veux plus que ce type de lettres ait cours.
Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Vous allez avoir des extraits, évidemment, de personnes harcelées.
témoignages exclusifs.
Maintenant, le harcèlement est considéré comme un délit pénal.
Combat des associations.
C'est le combat de ma vie depuis bientôt 11 ans.
Ça sauve, en fait, d'aider les autres.
Montrer à Nathan qu'il n'est pas seul.
Action du gouvernement.
Les élèves ont droit d'être heureux à l'école.
Si on n'en parle pas, on ne pourra pas faire changer les choses.
Harcèlement scolaire. La parole se libère sur C8. Un documentaire inédit avec la participation de ceux qui font bouger les lignes et de la ministre de l'Éducation nationale.
On ne peut pas venir à l'école la peur au ventre.
Harcèlement scolaire, la fin du silence, un documentaire inédit sur C8.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, la ministre? Moi, j'ai l'impression qu'elle ne dit pas grand-chose dans ce doc. Dans ce que j'ai vu, puisqu'on a eu la chance d'avoir le documentaire avant avec Valérie, moi, j'ai trouvé qu'elle ne disait pas grand-chose et qu'elle n'était pas comme Gabriel Attal ou...
Alors, Gabriel Attal a été particulièrement investi sur ce sujet. Il en a fait un combat personnel. C'était aussi...
Parce que lui-même a subi...
Lui-même a vécu du harcèlement scolaire durant l'enfance. Il l'avait d'ailleurs énoncé. Effectivement, c'est pas forcément... les histoires personnelles sont évidemment différentes avec Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, lorsqu'on a fait cette interview, elle vient d'arriver au ministère. Elle prend le sujet, évidemment, en cours de route. Elle continue les actions de son prédécesseur. Elle est très investie aussi sur ce sujet. Et effectivement, elle nous dit qu'elle ne lâchera rien.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
Valérie Expert et Gilles Gansman, que vous retrouvez en direct sur Sud Radio tout à l'heure à partir de 10h. 5h25 en ce 3 mai 2024. Bonne fête aux Philippes ce matin. Ce jour-là, dans l'histoire date importante du mouvement de mai 68, le 3 mai 1968, il y a 56 ans, avec le début de l'occupation de la Sorbonne.
Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps.
500 étudiants sont évoqués de force par les nombreuses forces de l'ordre présentes ce jour-là à Paris et s'en est suivi donc ces images d'affrontements extrêmement violents dans le quartier latin avec la création de barricades. Le mois de mai, le mois de juin, qui seront alors des mois émaillés de diverses actions qui ont conduit à la mort d'au moins 7 personnes. Allez, les anniversaires du jour ce matin du chanteur notamment belge, Eddy de Préto.
Tu seras viril, mon kit, point de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kit, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros.
33 ans pour le chanteur qui n'est pas du tout belge, alors me dit mon réalisateur. Maxime Sénat, français, hein, celui qui est né à Paris d'ailleurs, qui a sorti un album dernièrement, Eddy de Préto, qui avait été la cible d'ailleurs de cyberharcèlement en 2021 après avoir chanté dans une église, c'était à Paris justement, avec l'accord et le soutien du curé de la paroisse. Des menaces de mort de la part notamment de la mouvance catholique intégriste. On avait reproché effectivement à Eddy de Préto d'avoir chanté dans une église, ce qui a conduit à la condamnation de 11 personnes avec des peines de prison avec sursis. Lui aurait eu 91 ans ce matin, immense chanteur américain qui est né le 3 mai 1933 en Caroline du Sud, c'est James Brown. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. Sex Machine, James Brown, qui nous a quitté le 25 décembre 2006. Une vie de gloire pour celui que l'on surnomme encore le parrain de la soul, mais aussi une vie d'excès, des excès de vitesse, de violence conjugale, mais aussi de consommation de drogue. Il mourra ce jour-là, le 25 décembre 2006, d'une pneumonie. 5h28 sur Sud Radio, dans un instant la météo du jour, et puis on va retrouver les infos avant de faire un point, tiens, sur la revue de presse, les journaux du jour. Bon réveil sur Sud Radio. Get it together, right on, right on.
Get up, get on up. Get up, get on up. Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Dax.
102.
Sud Radio. La météo Sud Radio.
La météo du jour avec Rémi André, un temps plutôt mitigé pour aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien la journée d'aujourd'hui restera somme toute assez mitigée avec encore pas mal d'averses, voire des averses orageuses, mais ce sera plutôt pour la moitié nord. En effet au sud, ça s'est arrangé avec le retour de quelques belles éclaircies. Alors c'est le soleil qui va dominer tout de même autour du golfe du Lion, mais avec Mistral et Tramontane qui se sont réveillés. Sur le sud-ouest, donc des passages nuageux, des averses encore possibles, mais principalement sur le relief du Massif central. Sur le quart nord-ouest, dès ce matin, quelques averses entre les Charentes, le Poitou. Et puis, dans l'après-midi, ces averses vont se multiplier, prenant un caractère orageux. Attention, dans la soirée, une nouvelle perturbation arrivera par l'océan. Mais à l'opposé, du côté de l'est, eh bien, c'est surtout sur le nord-est que nous avons encore quelques pluies résiduelles actuellement. Eh bien, dans l'après-midi, cela prendra aussi un caractère orageux. Le tout avec des températures qui, ce matin, vont de 3 degrés à Aurillac jusqu'à 13 degrés sur la Corse. Dans l'après-midi, eh bien, pour tout le monde, ça sera à peu près régulier. Certes, il pourra faire jusqu'à 20 degrés vers la Méditerranée sous le soleil, mais ailleurs, on se contentera de 11 à 16 degrés.
Merci beaucoup Rémi, on vous retrouve tout à l'heure à 6 heures. Avant de retrouver la revue de presse, place aux infos, il est 5h30.
Parlons vrai.
Bonjour Florian Laffont.
Bonjour, nouvelle mobilisation des étudiants pro-palestiniens à Sciences Po Paris. Ils ont voté ce jeudi soir en faveur d'une nouvelle occupation des lieux. Face à cela, la direction de l'école a décidé de fermer ses principaux locaux pour toute la journée de vendredi. À un mois des élections européennes, Valérie Ayé a débattu ce jeudi soir avec Jordan Bardella. La tête de liste du camp présidentiel a tenté de convaincre pour rattraper son retard dans les sondages. Elle recueille 17% des intentions de vote, bien loin derrière son adversaire. Le président du Rassemblement National est lui crédité de 32%. Emmanuel Macron n'exclut pas encore l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour combattre la Russie. Le chef de l'État l'affirme dans une interview au journal britannique The Economist. Cet envoi se fera si Moscou perce les lignes de front et si Kiev le demande. Une hypothèse déjà émise par le président de la République en février dernier, ce qui n'avait pas fait l'unanimité chez de nombreux alliés. Scène de terreur dans un lycée toulousain. Une élève de 16 ans a été attaquée au couteau ce jeudi en fin de journée. Le suspect âgé de 19 ans se serait introduit armé dans l'établissement scolaire avant de se précipiter sur la victime. L'adolescente souffrirait de blessures superficielles au bras. L'homme qui serait atteint de troubles psychiatriques a été désarmé par un élève avant d'être enfermé dans une salle de classe. Il a été ensuite interpellé par la police. C'est un phénomène plutôt rare en France et pourtant un cas de fièvre de Lassa a été confirmé ce jeudi par le ministère de la Santé. Une maladie qui tue chaque année entre 5000 et 6000 personnes en Afrique de l'Ouest. Le patient contaminé est un militaire rentré de l'étranger. Il est hospitalisé en ce moment dans le Val-de-Marne. Son état de santé ne présente aucune inquiétude. Et puis en foot, rien n'est joué pour l'OM. Marseille a fait match nul à domicile, un partout ce jeudi soir en demi-finale aller de l'Europa Ligue face à l'Atalanta Bergame. Les Marseillais devront l'emporter jeudi prochain en Italie pour se qualifier en finale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon début de matinée à notre écoute.
Merci beaucoup Florian.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Troulot.
5h32 sur Sud Radio, bon réveil à l'écoute de Sud Radio tout de suite. La revue de presse du jour, les journaux dans le kiosque de Sud Radio. Tiens, on commence avec la dépêche du midi ce matin et ce fait divers du côté de Toulouse, poignardé en plein lycée, titre le journal. Une élève de 16 ans du lycée Urbain Vitry de Toulouse a été attaquée au couteau. Ça s'est passé hier dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Son agresseur présumé, lui aussi lycéen, a été maîtrisé, précise la dépêche. Les jours de la victime, heureusement, ne sont pas en danger. Dans l'actualité également, la une du Télégramme et Gaza qui fracture les universités, puisque eh bien le Sciences Po, du côté de Sciences Po Paris, de nouveaux blocages dans les prochains jours. Université, pourquoi le climat se tend, titre de son côté la dépêche du midi, avec ces tensions autour de la situation au Proche-Orient qui envahit le climat français. Les universités françaises ont-elles s'embraser sur fond de conflits israélo-palestiniens, comme aux États-Unis d'ailleurs, se demande la dépêche du midi. Ce matin, Midi Libre, la une, plaque d'immatriculation usurpée, la très grosse arnaque, titre le journal, puisqu'il est aujourd'hui facile de reproduire les plaques d'un autre véhicule sur Internet. Eh bien, la victime reçoit alors les amendes du fraudeur. C'est assez incroyable et ça existe, c'est très courant malheureusement. Pour enrayer le fléau, une proposition de loi a été déposée.
nous détaille le Midi Libre ce matin. Nice Matin, de son côté, nous parle des HLM, des privilégiés dans les HLM, se demande le journal, alors que le gouvernement veut mettre fin au logement social à vie. État des lieux dans ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes avec la une du Parisien aujourd'hui en France, justement, attribution de logement, les nouvelles règles de HLM, avec cette interview du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, dans les colonnes du Parisien, puisque le ministre du Logement présente aujourd'hui un projet de loi en Conseil des ministres. Il veut notamment peut-être remettre en cause un peu la loi SRU, revoir aussi la construction de logements intermédiaires, ces logements un peu moins chers que l'on met près des bassins d'emploi pour tenter de faire héberger des gens qui ont moins d'argent. En tout cas, le ministre du Logement qui veut aussi simplifier la construction de logements. On sait la crise du logement qui pointe le bout de son nez en France, sur loyer, résiliation du bail pour les plus aisés. Bref, les détails à retrouver dans le Parisien aujourd'hui en France. La une du Figaro ce matin, on parle d'un tout autre sujet. On se rend aux États-Unis ce matin avec Donald Trump qui fait la une du Figaro. Procès, scandale, adversaire, rien n'arrête Donald Trump, nous dit le Figaro, puisque depuis 3 ans et demi, l'ancien président a surmonté tous les obstacles politiques et judiciaires qui empêchaient son retour pour se retrouver donc de nouveau aux portes de la Maison Blanche. Il est aujourd'hui légèrement favori face à Joe Biden, alors que les élections doivent se dérouler aux États-Unis au mois de novembre prochain. D'ailleurs, Donald Trump qui faisait récemment la une du Time Magazine, il détaillait notamment un petit peu son programme pour possiblement un nouveau mandat du côté de la Maison Blanche. Et puis on termine avec le football, la une de La Provence. Tout reste possible, titre le journal, puisque les Olympiens, malgré une performance solide hier soir, détaille le journal, n'ont pas réussi à faire la différence face à l'Atalanta Bergame. Tout va donc se jouer jeudi prochain pour cette demi-finale, retour de l'Europa League. Hier, les Marseillais qui ont fait match nul, un but partout face à l'Atalanta, ils font la une également du journal d'équipe. L'OM garde la foi, nous dit le journal, alors que on retrouve notamment ces notes, les Marseillais qui sont pas très bien notés, notamment les attaquants, puisqu'on a retrouvé un 4 sur 10 seulement pour Aubameyang et un 3 sur 10 pour Ismaïla Sarr, 7 sur 10 quand même pour le joueur marseillais Amine Harit. Donc match retour jeudi prochain, alors que on retrouve notamment cette interview d'un certain Romain Ntamak qui fêtait son anniversaire cette semaine. Ma blessure va me faire grandir, nous dit le joueur du Stade Toulousain, alors que Toulouse doit affronter les Harlequins dimanche prochain en demi-finale de la Champions Cup. Voilà pour le programme un petit peu de ces prochains jours et de ce week-end du côté du sport. Ce soir d'ailleurs, je parlais du rugby, il y a aussi du football, la Ligue qui reprend ses droits du côté du championnat de France. C'est la dernière ligne droite, il reste plus que quelques matchs, 3 de mémoire, avant de retrouver le classement final. Il y a du suspense en haut comme en bas du classement. 5h37 sur Sud Radio. Tiens, tout de suite, on va retrouver la politique, l'invité politique hier de Jean-Jacques Bourdin, c'était le ministre Franck Riester.
Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin.
Parlons vrai ce matin avec Franck Riester, qui est ministre chargé du commerce extérieur de la France, de la francophonie et des Français de l'étranger, président de la Commission nationale d'investiture de Renaissance. Franck Riester, bonjour.
Bonjour.
Merci, vous êtes venu avec une bonne nouvelle, l'attractivité de la France. La France est toujours le pays le plus attractif d'Europe pour la 5e année consécutive. Combien d'entreprises sont sous contrôle étranger en France aujourd'hui?
Sous contrôle étranger, alors ça dépend ce qu'on appelle sous contrôle étranger, mais je n'ai pas le chiffre en tête là à l'instant T, mais il y a un certain nombre d'entreprises, bien sûr, dont les capitaux sont détenus par l'étranger, et c'est une bonne chose.
On a 17 500, je crois. Bon, 2 200 000 personnes employées par, finalement, des investissements étrangers.
Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que la France accueille des investissements d'entreprises détenues par des capitaux français et aussi par des capitaux étrangers pour créer des emplois, créer une dynamique économique. Vous savez que l'investissement est un des leviers de la croissance. Il y a la consommation, mais aussi l'investissement. Et donc, plus on investit en France, plus ça crée la croissance, plus ça crée des emplois, plus ça crée une dynamique économique qui bénéficie aux entreprises qui sont détenues par les Français. Alors, on a bien sûr des dispositifs de filtrage lorsqu'il s'agit d'investissements qui viennent s'accaparer d'entreprises qui sont stratégiques pour notre pays. Mais globalement, c'est important qu'il y ait des investissements étrangers viennent nourrir la croissance française. Et vous l'avez dit, Jean-Jacques Bourdin, pour la cinquième année consécutive, la France accueille le plus grand nombre d'investissements étrangers sur son sol en Europe, devant la Grande-Bretagne, devant l'Allemagne. Je vais vous donner plusieurs chiffres qui sont absolument clés. En 2023, il y a eu 3 fois plus d'investissements étrangers dans des usines en France qu'en Grande-Bretagne, 6 fois plus qu'en Allemagne, 9 fois plus qu'en Italie. Mais vous imaginez, pendant des décennies, on a dit que l'Allemagne, c'était le pays qui accueillait le plus d'industries, qui était la meilleure pour attirer les investissements industriels. Et bien aujourd'hui, c'est la France. Et ça fait 5 ans que ça dure. Sauf et ce n'est pas le fruit du hasard, Jean-Jacques Gourdin.
Oui, sauf qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs, souvent. Souvent, ce sont les mêmes investisseurs qui ont déjà investi en France, qui continuent à investir en France, qui ne sont pas rebutés d'ailleurs par la dette, par les déficits, qui n'inquiètent pas. Pourquoi est-ce que ça n'inquiète pas les étrangers?
Mais parce qu'ils regardent, quand un investisseur étranger qui vient d'Asie, d'États-Unis, d'Afrique, regarde un investissement en Europe, il se dit là où il a le plus de chances que ses investissements soient rentables, qu'il puisse avoir le plus de retours sur son investissement. Et donc, il regarde un certain nombre d'éléments. Vous parliez des éléments financiers, vous l'avez évoqué, mais il regarde la fiscalité, il regarde les talents, il regarde la politique de soutien à l'investissement, à la recherche, à l'innovation. Et quand il regarde tout ça, les talents, les compétences, quand il regarde tout ça, eh ben il choisit la France. Il choisit la France et depuis 5 ans. Et parce qu'il y a depuis maintenant une dizaine d'années, ça s'est accéléré depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en responsabilité, une politique de compétitivité pour notre économie, pour baisser la fiscalité, pour simplifier la vie des entreprises, pour investir dans la recherche et l'innovation qui permet à notre pays d'être le pays le plus attractif pour celles et ceux à l'extérieur de l'Union européenne qui veulent investir en Europe.
Ça veut dire 2 choses, Franck Riester. Ça veut dire que les impôts sur les sociétés ne baisseront pas ou continueront à ne pas augmenter. Voilà.
Mais attendez,
ils baisseront ou pas ces impôts?
Mais vous êtes investisseur. Vous dites, je vais investir dans une usine en France. Oui. Vous regardez l'impôt sur les sociétés. Vous dites, le président Macron, c'était à 33%.
Oui.
En 2017, c'est à 25% aujourd'hui. Vous dites, un chef d'État qui accompagne les entreprises.
Mais
25%, on est dans la norme européenne. Il faut aussi que les entreprises contribuent aux investissements publics, à notre protection sociale. Donc, on va continuer d'accompagner la baisse et la maîtrise de la fiscalité dans notre pays et notamment pour les entreprises. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout de la baisse des impôts de production. Ça veut dire qu'on va pas augmenter les impôts comme certains veulent nous le dire, ce qui serait ravageur pour notre économie. En fait, je vais vous dire, on va pas changer de stratégie économique. Même si nos oppositions, qu'elles soient de droite ou de gauche, veulent qu'on change de stratégie, on ne changera pas parce que cette stratégie, elle fonctionne. Regardez la croissance qui a été annoncée,
1%
parmi la meilleure de la zone euro et notre attractivité qui, d'année en année, se confirme.
Franck Riester, 1% de croissance en 2024?
Il y a des prévisions qu'a fait le ministre de l'économie qui vont dans ce sens-là. Mais regardez le premier
trimestre. Donc 1%,
regardez,
sur 1%.
Regardez le premier trimestre.
Oui,
il y a une bonne dynamique. Cette dynamique.
On est à 0,4.
Mais cette bonne dynamique, elle est le fruit de cette stratégie. Mais on ne peut pas dire oui comme ça, Jean-Jacques Bourdin.
Je dis oui.
C'est important.
Je vais pas vous dire non.
Oui, mais on a l'impression que vous relativisez. C'est important de le dire parce que quand on a tous ces gens qui critiquent en permanence.
Parce qu'il y a des critiques.
On l'écoute, on est lucide, il y a des choses qu'il faut améliorer.
Je vais vous poser des questions.
Notamment sur la simplification, sur un certain nombre d'éléments. Mais regardons en face aussi, dans ce monde difficile, dans un monde où la croissance Europe est plus faible que ces dernières années, la France tire son épingle du jeu parce qu'il y a une stratégie économique fiscale pro-entreprise qui est volontariste et qui tient dans le temps.
Franck Riester qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 8h30. Tiens, on va parler des européennes avec une tête de liste un peu en difficulté selon notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains pour ces élections européennes. François-Xavier Bellamy, 8h30, 9h sur Sud Radio. Nous, 5h43 dans le petit matin ce vendredi 3 mai. Dans un instant, on va retrouver les vraies voix. On va parler de Macron qui a rencontré hier les agriculteurs. Pas tellement satisfaits d'ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure avec François-Xavier Bellamy. Et puis aussi dans un instant, le rappel des titres avant de retrouver notre lève-tôt du jour.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents.
Sud Radio, parlons vrai.
Écoutez ce son. C'est le son de Grimbergen. Il annonce l'arrivée de son brassin de printemps. Une recette qui allie le savoir-faire de la bière d'abbaye et la fraîcheur des notes fruitées. Cette édition limitée, c'est une éclosion de saveurs délicates, douces et subtiles. Et toujours le goût de la tradition. Grimbergen Brassin de printemps pour une saison pleine de fraîcheur. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio Montauban.
104.7.
Sud Radio. Le petit matin Sud Radio. 5h-6h30. Maxime Troulot.
Et à 6h moins le quart sur Sud Radio, le rappel des titres. On a frôlé le pire à Toulouse. Une adolescente de 16 ans agressée au couteau dans le gymnase de son lycée par un homme de 19 ans. La jeune fille a été blessée au bras, placée en garde à vue. L'agresseur lui souffrirait de graves troubles psychiatriques et aurait agi, je cite, par dépit amoureux. Emmanuel Macron met à nouveau en garde la Russie sur un possible envoi de troupes au sol en Ukraine. Dans une interview au journal britannique The Economist, la question se pose, selon le chef de l'État, en cas de percée de la ligne de front par les Russes et également s'il y a une demande de l'Ukraine. Le projet de loi sur le logement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, parmi les mesures, 25% de logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux, mais aussi des permis de construire plus faciles à obtenir. Sciences Po Paris restera fermé aujourd'hui après le débat hier entre direction et étudiants pro-palestiniens. Une nouvelle occupation des locaux est en cours. 6 étudiants ont également entamé une grève de la faim. Gaza vidé, destruction sans précédent. Selon l'ONU, 72% des bâtiments sont touchés ou totalement détruits. Le coût de la reconstruction est estimé entre 30 et 40 milliards de dollars. Et puis le football, match nul un partout à domicile pour l'OM contre l'Atalanta Bergame en demi-finale à la Ligue Europa. Rien n'est fait, match retour jeudi prochain. 5h46 sur Sud Radio donc, tout de suite le meilleur de vos vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
On est l'espace économique qui est à la fois le plus normé et le moins protégé.
Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici.
Tout le système est à revoir, mais il faut quelques propositions concrètes.
Les accords de libre-échange avec le monde entier, qui aujourd'hui tuent à petit feu notre agriculture.
J'appelle ça un monologue, comme d'habitude, comme il nous a fait le coup pour les gilets jaunes.
Si c'est pour faire de la communication, ça sert à rien de faire ces débats.
Le président se met en scène, oublie l'intérêt général et oublie qu'il a en face de lui des gens qui sont en situation de survie.
Et le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière d'agricole, d'agriculture aussi, et le renouvellement des générations en agriculture est en examen à l'Assemblée nationale. Et après l'annonce de Gabriel Attal d'une série de nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs, une réunion s'est donc tenue ce jeudi matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron et les représentants du monde agricole pour tenter de sortir de la crise, Philippe.
Alors parlons vrai, est-ce le rôle du chef de l'État de recevoir les agriculteurs? Est-ce que les différents syndicats agricoles sont unis ou Macron joue-t-il sur une éventuelle désunion? Imaginez-vous un retour des agriculteurs dans les rues et sur les ronds-points? Et à cette question, rencontre Macron-agriculteur, la crise agricole est-elle terminée? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes agriculteur, le 0826-300-300.
Et Jean-François Lamassé est avec nous, administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Et on vous remercie en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette crise des agriculteurs, on n'en sortira jamais.
Alors j'aurais à la limite admis, mais peut-être fais-je une erreur là-dessus, que le président de la République vienne s'occuper comme une sorte de couronnement d'une crise agricole qui aurait trouvé tous ses remèdes. On pourrait le concevoir qu'il vienne poser son sceau majestueux sur une entreprise, sur une entreprise qui aurait été réglée par d'autres. Mais apparemment, d'après ce que vous dites vous-même, Cécile et Philippe, on est encore en pleine discussion et notre invité a eu l'air de soutenir le même point de vue. Alors je me demande s'il n'y a pas en permanence chez Emmanuel Macron une volonté de s'immiscer dans des discussions rien que pour montrer qu'il est toujours là et qu'en réalité, le Premier ministre aurait tort de croire qu'il a partie libre dans les domaines qui pourtant relèveraient de sa compétence.
C'est vrai que ça le temps pour le ministre de l'Agriculture.
Oui, mais parce que ça a toujours été ça, le ministre de l'Agriculture, il a toujours été la dernière roue du carrosse, même les meilleurs ministres de l'Agriculture en cas de crise. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous ramenez tout au fait qu'on veut toucher à votre pote petit chéri, Gabriel Attal.
Ah non, pas du tout. Bon, non.
Mais c'est normal qu'ils reçoivent les syndicats parce qu'Emmanuel Macron, il a un seul objectif, c'est le 9 juin. Donc, il fait ce qu'on connaît tous en politique, il promène le chien, c'est-à-dire qu'il endort tout le monde, mais notre invité sera tout à fait d'accord, il endort tout le monde pour que surtout il n'y ait pas le moindre soubresaut avant les élections le 9 juin. C'est ça. Pas de levée de bouclier, pas de retour d'agriculteurs dans la rue, il a déjà des faits divers tragiques tous les jours qui nourrissent le RN sans même qu'il ait besoin de faire campagne. Donc c'est ça le sujet, ça n'a même rien à voir avec ses compétences et laisser sa marque. Il veut simplement arrêter l'hémorragie sur ce front-là.
Sébastien Ménard.
Alors, totalement en désaccord avec Philippe Bilger, à moitié d'accord avec Françoise de Goix. Non, je pense pas que le président de la République souhaite se mettre en scène. Il y a juste une demande, une volonté très forte. On dit toujours que on préfère parler à Dieu qu'à ses saints. C'est exactement ce qui se passe sur tous les sujets. Il suffit de voir sur tous les sujets. Tous les patrons veulent parler à Emmanuel Macron. Je suppose que les agriculteurs préfèrent parler soit
comme
à Gabriel Attal.
À Hollande,
évidemment,
ou à Sarkozy,
évidemment. Ça c'est le premier point. Ah, donc c'est la raison pour laquelle je suis pas d'accord du tout avec vous, Philippe. Et il cherche pas nécessairement à briller à la place d'eux. C'est lui le président. Attal ne serait pas là sans le président et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, sans Emmanuel Macron n'existerait pas. Voilà. Et c'est pas leur faire des honneurs que de dire cela et de rappeler un certain nombre de vérités qui sont des vérités politiques. Voilà. Deuxième
c'est
point.
C'est dommage, ça démonétise.
Non, mais c'est pas le sujet. C'est la réalité de la cinquième République.
Ça n'empêche voilà. que.
Donc, ouais, donc ouais, ensuite, vrai, ensuite sur, ce que dit, sur ce que dit Françoise, oui, il y a effectivement le président de la République a besoin d'occuper. Je dirais la scène politico-médiatique. Et d'ailleurs, ces troupes lui en voudraient de ne pas le faire. Ils ont besoin d'Emmanuel Macron. Voilà. Je dirais que sans Emmanuel Macron, les candidats qui se revendiquent d'Emmanuel Macron ne seraient pas à 16, 17, 18 ou peut-être, souhaitons-leur, 20, 22, 23%. Non, c'est ce qu'ils souhaitent. On a le droit de rêver aussi. On a le droit de rêver aussi. Il n'y arriverait pas. Non. Il n'y arriverait pas. Donc, mais attention, qu'est-ce qu'a dit le président Macron à l'issue? Il leur a dit, attention, moi je ne veux pas courir derrière la colère des agriculteurs. Et il est complètement dans le sondage qu'on a fait ce soir chez nos auditeurs. Il dit, attention, la crise n'est pas terminée. Et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour sortir de cette crise.
Libre à voix que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 17h. Philippe David et Cécile Desmenibus vous attendent entre 17h et 20h pour débattre. Et vous pouvez nous appeler, vous le savez, au 0826 300 300. 5h51 sur Sud Radio. Bah tiens, on va retrouver notre lefto du jour. Et ce matin, on va du côté de l'Eure à Fleury-sur-Andelle retrouver Vincent Dick. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, d'être notre lefto du jour. Vous êtes distillateur ambulant. Alors, je suis très curieux. Expliquez-nous quel est ce métier, mon cher Vincent.
Eh bien, distillateur ambulant, c'est un monsieur qui a un alambic et qui se balade dans la campagne pour distiller les produits de ses clients, voilà, des particuliers pour la plupart.
D'accord. Alors, comment vous avez eu l'idée de faire ce métier, Vincent? Expliquez-nous tout ça.
Moi, c'est plutôt un héritage. En fait, mon père était distillateur et puis j'ai simplement repris son activité. Après avoir essayé de faire autre chose, j'ai fait quelques études avant et puis finalement, mon héritage m'a rattrapé, quoi.
D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement avec votre alambic? Vous avez un camion, c'est ça? Et vous allez de ville en ville pour... Ouais, et c'est les clients qui vous appellent?
En fait, non, c'est plutôt moi qui appelle mes clients pour leur prévenir que je vais passer. En fait, ce sont des clients qui distillent en général tous les ans. Donc, on se voit une fois par an pour transformer leur cidre en calva, quoi.
Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, vous arrivez le matin, ça prend quoi? Plusieurs minutes, plusieurs heures? Il y a plusieurs heures?
J'arrive le matin, je mets la machine en chauffe, je chauffe au bois. Je mets la machine en chauffe, ça met une heure à chauffer. Puis après, ma journée est lancée. Je peux faire entre 4 et une dizaine de clients par jour.
jours. Ça, ça dépend des quantités, ça dépend des journées et puis de la densité de clients que j'ai à faire en fonction des endroits, quoi.
Oui, j'imagine. Alors, Vincent, quel type d'alcool faites-vous? Quelles sont les principales demandes de vos clients?
Ah ben moi en fait là en Normandie il y a beaucoup de pommes, donc on fait les gens fabriquent eux-mêmes leur cidre.
D'accord.
Donc je distille énormément de cidre et jusqu'à il y a pas longtemps je distillais beaucoup de fruits aussi, mais sur une zone un peu plus rapprochée de la région parisienne, quoi. Chartres et la région parisienne.
D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est assez original, parce que finalement, on pourrait se dire, les Français vont dans le supermarché du coin ou chez Nicolas, quoi, hein, pour acheter leur cidre, ouais, ou leur eau de vie. Hein. J'imagine que vous faites aussi de l'eau de vie, Vincent. Mais il y a quand même des Français qui souhaitent avoir leur propre alcool. C'est une demande que vous voyez augmenter, baisser. Quelle est la tendance?
Non, c'est pas quelque chose qui se développe. On a eu des lois très restrictives jusqu'au 1er janvier 2024. Là, il y a des nouvelles lois qui sont passées qui favorisent un peu plus la production d'alcool pour les particuliers. Mm-hmm. Mais non, il y a vraiment de moins en moins de clients, de gens qui produisent leur propre alcool, leur propre cidre déjà. Mm-hmm. Et c'était pas vraiment une tendance qui allait vers le haut, quoi.
Comment vous l'expliquez ça, Vincent? Il y a un manque de connaissances et peut-être un effet de mode?
Non, il y a eu des politiques vraiment discriminatoires sur l'alcool, quoi. Donc, en termes de production, pour les particuliers, déjà il y avait des quotas à respecter jusqu'au 1er janvier 2024, là. Mmh. Et puis ça a mis à mal toute la production, toutes les traditions qui s'opéraient sur le territoire français, quoi.
Vous pensez que de plus en plus, Vincent, on pointe un petit peu trop du doigt les consommateurs d'alcool en France, peut-être trop de répressifs en voulant arranger les choses, peut-être?
Après, on s'entend bien, on force personne à la consommation. Disons que nous, on a plutôt le discours de la qualité plutôt que de la quantité, quoi. C'est beaucoup plus facile, effectivement, comme vous le disiez, d'aller dans un magasin, de tendre le bras et puis mettre la bouteille dans le caddie, que de produire son cidre et de faire du calva de qualité. À boire avec modération, bien entendu.
Expliquez-nous un petit peu comment ça marche tout ça, finalement, Vincent. Le distillateur, le métier de bouilleur de cru. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe concrètement dans la machine, quoi, j'allais dire. Hein.
Ah, dans la machine, alors c'est simple, on prend un produit fermenté, le cidre, on le fait bouillir, d'où le nom de bouilleur ambulant.
Oui.
Et on le fait bouillir et en fait de l'évaporation du cidre, il y a deux types de choses, de l'eau, de la vapeur d'eau et de la vapeur d'alcool. Donc tout ça, ça passe dans tout un système de tuyauterie. Mmh. On refroidit, on sépare les vapeurs d'eau des vapeurs d'alcool et on ne conserve que l'alcool. Et voilà comment on arrive à séparer l'alcool du cidre.
Et ça fait combien de temps que vous êtes distillateur, Vincent?
Ah, moi ça fait 20 ans.
Et vous avez toujours été ambulant? Ça a toujours été un souhait de votre part de parcourir un peu les villes de France pour rencontrer les gens?
C'est le principe de ce métier-là, c'était de couvrir un grand secteur pour pouvoir travailler suffisamment pour pouvoir gagner sa croûte, quoi.
Et puis ça permet aussi de créer du lien, j'imagine, les discussions s'installent.
Complètement, oui. C'est à la fois un métier de terrain et à la fois un métier très social. La France, on la voit vraiment sur le terrain, quoi. Donc ça c'est très très appréciable parce que on voit des belles choses, on voit des belles gens, on voit des beaux paysages, voilà, quoi. Je recommande aux gens de faire ce métier.
Et voilà. ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été notre invité. Bon courage à vous et vous prenez la route ce matin?
Non,
pas ce matin.
Je crois que je vais faire une pause d'épongation dans mon lit.
Très bien, vous avez raison. Vous avez tout à fait le droit avant un week-end bien mérité. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été notre invité sur Sud Radio, 5h57. Dans un instant, on va retrouver Rémi André pour la météo du jour et puis Laurie Leclerc pour les infos. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio. L'horoscope Sud Radio.
Mais avant ça, bien sûr, l'horoscope avec Bénédicte.
Bonjour Bénédicte. À tous, nous sommes le vendredi 3 mai.
Bélier, la lumière du cœur réchauffe ce qu'elle touche. Vous incarnez l'amour dans son expression la plus pure.
Taureau, mieux vaut parfois éviter de fausses opportunités. Les événements se produiront le moment venu. Observez bien les changements. Gémeaux, la lune apporte une bonne dose de fantaisie à votre quotidien. Le moment est venu de donner vie à vos projets les plus audacieux. Cancer, cette journée fait la part belle aux émotions. Autour de vous vont s'exprimer ces restes de l'enfance, ces émotions sans filtre. Lion, mettez votre énergie sous le contrôle de votre raison plutôt que de votre instinct qui n'est pas très bon conseiller dans l'ambiance du jour. Vierge, c'est une farandole de sentiments qui déferle dans votre vie. Sentimentalement, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Balance, en amour, vous préférez l'action à la passivité. Autant vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui. Scorpion, les négociations sont comparables à un sport intense en ce moment. Vous serez bien détendu après avoir passé quelques matchs lucratifs. Sagittaire, des idées à l'appel, un charme irrésistible et un pouvoir de séduction à tomber par terre. Attention aux excès de zèle. Capricorne, c'est le moment de prendre d'importantes décisions pour votre avenir professionnel. Vous pouvez vous lancer. Verseau, un oubli important, un quiproquo ennuyeux, un rendez-vous bâclé, un peu d'autodiscipline et les dégâts resteront mineurs. Poisson, la roue tourne dans le bon sens. Ne baissez pas les bras alors que vous avez toutes les cartes en main.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
La météo du jour, on va retrouver Rémi André. Bonjour Rémi.
Bonjour Maxime, bonjour tout le monde.
Bon, ça donne quoi pour cette fin de semaine, Rémi ?
Eh bien, encore un petit peu d'instabilité, c'est-à-dire que ça s'est tout de même globalement amélioré, mais nous avons ce matin des averses que l'on retrouve depuis le littoral de la Bretagne jusque vers le littoral de la Gironde. Eh bien, ces averses vont